Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs, vous écoutez Les Jeux du Mois, une émission de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Drew, et pour m'accompagner dans cette dernière émission des Jeux du Mois de l'année 2024, je suis accompagné de Kurtz. Bonjour Kurtz, comment vas-tu ?
Salut Drew, ça va super et toi ?
Ça va bien, une bonne fin d'année, Noël qui approche, les fêtes, tout ça.
Effectivement, déjà le mois de décembre et puis bientôt 2025, ça passe à une vitesse.
On est à peine habitué à écrire 2024, qu'il va falloir changer les noms.
C'est ça, exactement, ouais, la malédiction de début de chaque année.
Ouais. Et toi, tu commences vachement fort ta saison parce que tu viens d'arriver, c'est déjà ton deuxième jeu du mois.
Déjà le deuxième jeu du mois, oui, effectivement. Ah oui, non mais moi je suis pas venu là pour faire de la figuration, effectivement. Moi, mon but c'est de participer à toutes les émissions.
C'est pas mal, t'es bien parti.
Ouais, en tout cas.
C'est clair. Bon, en tout cas, tu commences à connaître un peu, donc tu sais qu'on va remercier nos donateurs et donatrices.
Eh bien, bien sûr. Donc, nous tenons à remercier nos donateurs et nos donatrices qui nous aident à réaliser ce podcast. Donc, pour ce quart de mois, nous remercions 4Troy, Techmoon, Alès, Joël, El Piero 50, Jimmy Celtics 95, Gaume, Pauvle, Retro et Flix, Stugarek, Raduris, Gnocchi Flet, Nox, Laurent 36 et Johan. Nous remercions aussi également la Caverne du Gobelin qui est notre partenaire. La Caverne du Gobelin, ce sont 6 boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson, Thionville, Toul et Sommecourt qui ont toutes des cafés-jeux. Mais c'est surtout une boutique de vente de jeux de société en ligne sur cavernedugobelin.com.
Eh oui, les gobelins de Noël. On les connaît pas, mais c'est les assistants des lutins de Noël en fait.
Voilà.
Et donc, comme toutes les émissions, en début, nous revenons sur les commentaires que vous nous avez laissés sur le site, sur le billet de chaque émission. Et cette fois, nous revenons sur les jeux du mois de novembre, où on avait donc le Pionfesseur qui nous parlait de Spot ou encore, et Peter qui nous parlait de Pirates de Maracaibo. Et le Pionfesseur serait très déçu s'il était là, parce que nous avons que 3 commentaires de 2 commentateurs différents, et dont un que je connais très bien, qui s'appelle Kurtz.
Il paraît, ouais.
Ouais, tu nous avais laissé un commentaire donc sur des jeux en kit, c'était à quel moment qu'il parlait de ça ?
Voilà, Peter parlait que c'est très à la mode en ce moment sur Proxy Jeux des mini-jeux, et il se posait la question de savoir est-ce que les jeux en kit existent façon squelette chez le marchand de journaux ?
Ah oui, c'est vrai.
Voilà, alors moi personnellement, la seule chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que si, à une époque, il y a quelques années déjà, pour Carcassonne, étaient vendues 6 mini-extensions, et que si on achetait les 6, à chaque fois, il y avait une petite tuile dans chaque qui créait une 7e mini-extension. On est léger sur le jeu en kit, mais pour moi, c'est ce qui s'en approche le plus.
Ouais, je crois surtout qu'il parlait, lui, des éditions Atlas, les fameuses qui nous vendaient un petit bout de truc
C'est de ça dont je parle quand je dis le squelette chez le marchand de journaux, où tu sais, on a la mâchoire à 2,50€ et après ça coûte une fortune au final.
Ouais. Puis le truc qui s'arrête en cours de route, le marchand de journaux il le vend plus.
Et voilà.
Voilà. T'es obligé de l'acheter directement chez l'éditeur à prix d'or.
C'est ça.
Ok, et donc sinon, l'autre commentateur, c'était Loïc, qui lui revenait surtout sur Pirates de Maracaibo, et qui nous apportait des précisions, notamment sur le ressenti après plusieurs parties, et notamment apparemment une partie que Peter a pas trop abordée, qui sont les pouvoirs qui sont sur notre plateau personnel, hein, qui est un espèce de petit bateau. Je dis pouvoir, mais ce sont surtout des bonus immédiats, qu'on va comme ça activer, et qui sont très, un peu, tu sais, bingo, comme disait le professeur, oui. Dans les jeux justement bonus comme ça, donc là des petits bonus immédiats très satisfaisants, et surtout un pouvoir de tuile parce qu'on va pouvoir mettre une figure de proue à son bateau, et là ça nous amène un pouvoir permanent et donc qui va teinter un peu notre jeu dans le reste de la partie, oui. et d'autant que ces proues elles sont en quantité limitée, on les tire un peu au hasard au début de la partie, il peut y avoir une véritable course, s'il y a une proue qui est vraiment intéressante, les joueurs vont peut-être un petit peu se tirer la bourre pour aller la chercher en premier quoi. Et effectivement il y a aussi cette mécanique là dans le jeu, et ce qu'il nous précise aussi c'est qu'au fur et à mesure des parties les joueurs expérimentés ont plutôt tendance à avancer très vite sur la carte et à traverser, hein. c'est un jeu on va dire cyclique, hein,
oui.
Où chaque manche va s'arrêter quand une personne arrive au bout de la carte, et apparemment les joueurs expérimentés ont plutôt tendance à accélérer la manœuvre, et comme on traverse vite la carte on récupère moins de cartes, on crée moins son tableau de cartes, son moteur, et donc ça fait des parties très vives, et les autres joueurs sont un peu obligés de suivre parce que l'action dont on bénéficie quand on arrive à Maracaibo est très intéressante, très forte. courte, donc ben, tout le monde a envie de la faire, donc tous les joueurs vont plutôt vite. Et c'est le travers un peu qu'il a remarqué dans ce jeu. Alors moi, j'ai fait qu'une partie. Je comprends ce qu'il dit, effectivement, je peux le concevoir, parce que j'ai toujours essayé d'aller à Maracaibo, même quand j'étais pas le premier arrivé. En tout cas, j'essayais de pas être trop loin pour ne pas perdre cette action, qui effectivement est assez forte, assez démesurée par rapport aux autres actions qu'on peut trouver sur le plateau.
Quitte à abandonner des actions en route, oui, je vois le...
Voilà, c'est ça, ouais. À sacrifier effectivement son tableau de cartes, parce que c'est ça qu'on fait en fait quand on va s'arrêter dans le chemin, on va acheter des cartes et donc comme ça créer son petit moteur. Et là, ben si on s'arrête pas, on crée pas le moteur et on trace, quoi. Donc voilà, je verrai dans mes prochaines parties, parce qu'on l'a à la maison maintenant, mais je peux le concevoir effectivement que ça évite. Voilà pour les commentaires de l'émission précédente.
Très bien.
Ah si, et Loïc nous précisait sur Spot aussi.
Ah oui, très important. très important commentaire. Oui.
Effectivement, parce qu'il y a l'humoriste Céligueux qui a fait un petit sketch dessus où il parle d'un chien mutant croisé avec une vache, et comme qui nous précise donc que ça s'appelle une chiache.
Une chiache.
comme on peut trouver le chien vache dans le jeu Spot. Voilà.
Voilà, et puis si vous voulez voir le sketch, le lien est dans les commentaires de l'épisode en question.
C'est ça. Donc voilà pour les commentaires, et on va pouvoir enchaîner tout de suite avec les jeux de ce mois-ci. Et je vais te laisser t'y coller avec le premier jeu, c'est donc Star Wars Deck Building Game, c'est ça ?
Alors, Star Wars The Deck Building Game Clone Wars Edition. Attention.
Ah, pardon, j'avais oublié le sous-titre.
Ça va avoir son importance. Mais on parlera aussi de la première boîte.
Ça marche, allez, c'est parti.
Alors, Star Wars The Deck Building Game Clone Wars Edition. Alors, rassurez-vous, je ne redirai pas tout à chaque fois. Alors, petite fiche signalétique, les auteurs de ce jeu sont Caleb Gress et Frank Brooks. Donc Caleb Gress, c'est un auteur qui a travaillé sur Marvel Champions et le JCE du Seigneur des Anneaux. Et Frank Brooks, il a essentiellement officié sur la licence Star Wars X-Wing. On n'est pas sur du débutant dans ce genre de jeu. Voilà.
C'est lui qui a les clés du domaine, quoi. C'est lui qui a la licence et...
C'est ça. Donc, concernant les illustrations, ce n'est pas indiqué sur la boîte. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. L'éditeur, c'est Fantasy Flight Games. C'est un jeu qui se joue à deux joueuses et joueurs, voire quatre si on joue avec deux boîtes, pour des joueurs et joueuses à partir de 12 ans, pour des parties d'une trentaine de minutes. Et le jeu est disponible à 34,90€ chez notre sponsor, la Caverne du Gobelin. Et le jeu est fabriqué en Chine.
Donc on parle bien du jeu Star Wars en boîte, hein, pas des boosters de cartes qu'on va acheter. Hein.
Tout à fait, on achète la boîte, on a tout le jeu.
Ok.
Donc, comme son nom l'indique, ce jeu est un deck building dans l'univers de Star Wars, la guerre des étoiles en français. Et plus précisément des films 1, 2 et 3, l'arc Clone Wars, la guerre des clones, où la République et les séparatistes vont s'opposer pour le contrôle de la galaxie. Cette boîte est la deuxième de la gamme, elle fait suite à celle sortie en début d'année, et intitulée tout simplement Star Wars The Deck Building Game, qui était basée sur les films 4, 5 et 6.
Ils nous la refont, quoi. Ils sortent 1, 2, 3 après le 4, 5, 6.
Exactement. Donc, pour ceux qui sont pas familiers, pourquoi 1, 2, 3 après 4, 5, 6? Eh ben, sachez que c'est normal.
Mais que dans Star Wars.
Que dans Star Wars, voilà. Alors, le jeu peut se jouer seul, en stand-alone, ou bien combiné avec la première boîte, mais ça, on y reviendra. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, il faut savoir que je suis un grand fan de deck building. Donc, les jeux comme Dominion, Trends ou Star Realms, de base, ils ont toute mon attention.
Mmh.
Il faut aussi savoir que je suis un fan de Star Wars, un fan à l'ancienne. Donc, pour moi, la guerre des clones, pas vraiment.
Donc une mécanique que t'aimes bien, mais sur un thème un peu moyen, ça donne quoi ?
Eh ben on va voir ça tout de suite. Je parlerai d'abord du système dans son ensemble, avant de faire le point sur la dernière boîte, la boîte en question. Donc le principe et les explications. C'est un jeu qui va ressembler à Star Realms, mais en asymétrique. Pourquoi Star Realms ? On a un système de deck building avec une rivière, on joue en 1 contre 1, avec des synergies de factions. D'autant plus dans cette nouvelle boîte. Pourquoi asymétrique ? Les factions sont spécifiques, un thème, des personnages clés, mais surtout dans des dynamiques de jeu et le fait que les actions de notre faction diffèrent de ceux de la faction de l'adversaire, dans la façon d'attaquer ou de recruter les cartes. Donc en gros, c'est un deck building à rivière avec quelques spécificités mécaniques qui sont liées à son univers, des factions spécifiques, des planètes à détruire et le système de la force.
Et donc tu joues forcément quelqu'un du côté obscur et quelqu'un du côté de l'Alliance ?
Eh bah, ben, pas dans cette deuxième boîte. Dans cette deuxième boîte, on va jouer la République et les séparatistes.
D'accord.
Alors que dans la première boîte, on jouait l'Empire contre la Rébellion.
Ok.
Donc le système est très classique pour un deck building. Je joue toute ma main. Je fais avec les ressources qu'elle me procure. je défausse tout, et ce que j'ai récupéré va dans la défausse, puis je pioche. Certaines cartes, au moment de les jouer, vont permettre un petit effet, au moment où elle est jouée, du genre piocher deux cartes, défausser-les-en une. Voilà. Jusque-là, rien que de très classique.
Mmh.
Alors, pourquoi j'aime ce système de deck building? Et ça, ça va concerner les deux boîtes, les deux jeux. Donc, comme je disais, il y a une grosse base de Sarims, même si on ne doit pas anéantir l'adversaire. Il n'y a pas de point de vie. Mais des spécificités qui sont parfois liées à la licence. Donc, comme on disait à l'instant, il y a des factions spécifiques. Dans la première boîte, on jouait l'Empire, la Rébellion et des cartes neutres. Dans celle-ci, on joue la République, des séparatistes et des cartes neutres. Comment ça se traduit dans le jeu? Avec la couleur des cartes, une rivière. Dans la rivière, les cartes font face à leurs propriétaires. Et autour de propriétaires, je mets des guillemets. Les cartes, par exemple, des séparatistes vont être tournées vers le joueur qui joue les séparatistes, les cartes de la République vers le joueur qui joue la République, et les neutres vont être mises à l'horizontale et sont tournées vers aucun des deux joueurs.
D'accord. Mais c'est quand même une rivière commune, alors.
C'est une rivière commune qui s'appelle la Galaxie dans le jeu en question. Bon, la D'accord. Galaxie de cartes, c'est pas important, mais la rivière est commune.
Mmh.
Le fait de mettre les cartes dans ce sens-là, ça sert beaucoup à la lisibilité. Le propriétaire, encore une fois avec des guillemets, doit pouvoir identifier tout de suite les effets ou les pouvoirs des cartes qui lui sont destinées.
Mmh.
Ensuite, on peut agir sur ces cartes. On peut les acheter, avec des points d'achat qui sont sur les cartes qu'on vient de jouer, ou on peut les combattre. Ça, c'est une nouveauté par rapport à Starims. Donc le système de combat, qui s'appelle le sabotage ou la chasse à la prime, sur la rivière, c'est purement thématique. C'est un peu à contre-emploi dans la deuxième boîte, parce que le sabotage, c'est à la République, mais c'est les gentils. Donc bon, voilà. Et ils ont gardé les termes de la première boîte.
Donc en gros, tu vas saboter une carte de la rivière pour pas que l'autre puisse l'acheter, quoi. C'est sa carte à lui et tu vas lui...
Exactement. Ou bien avec le système de combat, on peut aussi attaquer les planètes. On y reviendra. Le coût en combat est le même que le coût à l'achat. Donc pour attaquer une carte de l'adversaire, je dois dépenser autant de points d'attaque que lui aurait dépensé de points d'achat pour l'acheter.
Mmh. Et les points d'attaque et les points d'achat, c'est la même chose ou c'est deux compteurs différents?
C'est deux compteurs différents qui sont expliqués D'accord. plus loin avec une petite astuce très agréable. Et donc on a une récompense quand on attaque les cartes de l'adversaire dans la rivière. Et surtout, la carte, une fois qu'elle est attaquée dans la rivière et qu'elle est battue, elle dégage. Elle n'est plus dans la rivière, elle est défaussée. L'adversaire ne pourra plus l'acheter, sauf très rare exception. Donc on peut jouer la politique de la terre brûlée, on peut vider la rivière des cartes de l'autre pour le bloquer.
Parce que la rivière, elle est regarnie quand ?
Au fur et à mesure, une carte dégage et une nouvelle carte qui arrive.
D'accord.
Voilà. Mais c'est un risque de faire ça, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Et puis de toute façon, l'adversaire pourra toujours se rabattre sur les cartes neutres. Qui, attention, c'est pas parce qu'elles sont neutres qu'elles sont dégueulasses. Il y a des très très bonnes cartes dans les cartes neutres. Mais pendant tout le temps qu'on prend à bloquer l'adversaire, nous on n'avance pas vers la victoire. Donc c'est une stratégie à adopter ou ne pas adopter, et à savoir comment l'équilibrer, surtout.
Mmh.
Et franchement, quand la grosse carte dont tu planifiais l'achat depuis 3 tours se fait dégager juste avant que tu arrives à la choper, crois-moi, ça fout la rage.
Tu m'étonnes.
Donc je dirais même, ça fait sombrer vers le côté obscur, pour rester dans le thème. Petit bémol, les récompenses sont pas folles, et rarement très originales. C'est plus le fait de retirer la carte qui motive. Franchement, le plaisir, quand on arrive à buter Luc ou Dark Vador avant que son adversaire arrive à l'acheter...
Ah là là, c'est petit ça.
Tellement gratifiant.
Donc tu n'incarnes pas Luc ou Dark Vador, alors?
Non, on incarne la faction.
D'accord.
Dans la première boîte, effectivement, c'était l'Empire ou la Rébellion, dans lequel pourront rejoindre Luc ou Dark Vador s'ils sont achetés au bon moment. Ensuite, il y a les planètes. On y reviendra. Et je me rends compte que ça fait beaucoup, beaucoup de fois que je tease sur des choses dans lesquelles on reviendra, mais vous verrez, à la fin, tout prendra sens. Et pour les planètes, chaque personne a un deck spécifique. Alors, il y a un côté asymétrique, des dynamiques différentes, des synergies spécifiques. Après, à voir, est-ce qu'on le ressent vraiment la différence à jouer au bleu ou rouge ? Je serais tenté de dire oui, un petit peu. À force, au bout de quelques parties, on se rend compte qu'il y a quand même des façons de jouer en fonction d'une faction ou de l'autre. Effectivement.
Oui, parce que justement, est-ce que c'est pas juste un skin, quoi ? Quand Luc ou Dark Vador, ils ont pas le même pouvoir, mais un coup dans un sens et un coup dans l'autre.
Non, le jeu a quand même réussi à tirer. C'est pas délirant, c'est pas... Voilà. Mais il y a quand même quelque chose.
Mmh.
Ensuite, je vais vous parler des systèmes annexes du jeu. Les planètes. En début de la partie, on a une planète de départ. Elle est pas dingue, elle a pas de pouvoir, elle a très peu de points de vie. Elle est juste là pour dire, voilà, c'est la planète de départ. Et un lot, on a un stock de 10 planètes chacun, qui vont en mode avancé. On peut les jouer toutes, mais vaut mieux commencer avec moins, sinon la partie va être très longue. Donc pour en revenir au point d'attaque, on peut donc attaquer la rivière, comme j'ai dit, ou bien essayer de détruire les bases. Ce qui est le but du jeu. On n'attaque pas directement son adversaire, comme dans Starims ou Magic. Le but, c'est de détruire un certain nombre de planètes. 3 ou 4. dans une partie normale. Pour détruire la planète, il faut d'abord détruire les vaisseaux, l'équivalent des bases dans Star Realms. Mmh. Et les vaisseaux, ils prennent des dégâts qui restent si on n'arrive pas à les détruire en fonction, au fur et à mesure, et il y a possibilité de les réparer avec certaines actions.
Ok.
La rivière, pour pouvoir détruire une carte, c'est en un coup. Si on n'a pas suffisamment de points d'attaque pour la dégager, ça ne marche pas. Et on peut attaquer plusieurs vaisseaux, répartir les points d'attaque, ça c'est au choix.
Et donc si tu attaques, tu peux attaquer une carte de la rivière et des vaisseaux autour de la planète?
Si t'as suffisamment de points d'attaque, oui.
Ouais. Tu peux aussi distribuer comme ça.
Juste ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux pas répartir les points d'attaque d'une de tes cartes. Elle doit tout attaquer, okay. Ce qui est logique avec ton petit sabre laser, tu peux pas mettre un coup là, enfin voilà. C'est, okay. Voilà. Une fois sa planète détruite, le joueur va se replier vers une nouvelle planète. Ça va créer un effet d'opportunisme. On va devoir s'adapter à la situation à l'instant T. Le choix de la planète n'est pas anodin. Les planètes ont toutes des points de vie différents, des effets au moment où elles arrivent, et ça donne une vraie dynamique à la partie.
Et elle arrive avec des vaisseaux déjà, la planète?
Non,
ou...
non, 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 les vaisseaux font partie des cartes que t'as en main, le vaisseau, une fois détruit, part à la défausse, et il revient quand tu le pioches dans ton deck à ce moment-là. Voilà. Ensuite, il faut que je vous parle de la force. Dans Star Wars, ce sera un comble de pas en parler. La force, c'est une des trois ressources du jeu qui est récupérée quand on joue des cartes. Elle est symbolisée sur les cartes. Elle est représentée par un petit plateau qui est à côté et façon tir à la corde va pencher d'un côté ou de l'autre. La force commence du côté des gentils. Si la force est totalement de notre côté, on gagne une ressource d'achat en plus. Mais surtout, ça va avoir une importance pour certaines cartes du jeu qui disent « Si la force est de votre côté, gagnez ci ou gagnez ça ». C'est cool, ça donne de la valeur à un truc qui est sur le côté et qui sinon ferait un peu coller. Ça donne, ça donne de la personnalité à certaines cartes. Dark Vador dans la première boîte, ou par exemple dans celle-là, je vous ai pris l'exemple d'Ahsoka, qui lorsqu'elle est jouée, permet de révéler la première carte de son deck, et si la force est de notre côté, on peut l'échanger avec une carte de la défausse. Donc voilà, ça peut permettre une petite stratégie, essayer de garder la force de son côté, jouer des cartes qui interagissent sur la force. L'importance de la force est moindre dans cette boîte que dans la première, mais en même temps, comme je l'ai dit précédemment, thématiquement, c'est normal. Par rapport à l'univers, donc c'est pas un gros problème pour moi. La résolution des cartes est très libre et très flexible dans l'acquisition des ressources et la résolution des effets. On n'a pas le côté « tu dois finir entièrement une carte avant de passer à la suivante », ce qui peut être difficile à suivre. Mais bon point, le jeu est fourni avec une poignée de cubes. Il y a des cubes violets et des cubes jaunes qui vont permettre de représenter les points d'attaque et les points d'achat de nos cartes. C'est hyper pratique. On pose les 5 cartes de sa main. Sur chaque carte, on colle le petit nombre de cubes qui correspond. Et il n'y a plus qu'à. Comme ça, on sait qu'on a tant de cubes jaunes qui représentent l'achat, donc avec mes 8 cubes jaunes que j'ai sur mes 5 cartes, je peux acheter celle-là, ou j'achète 3, j'enlève les cubes, j'achète une carte à 3, il m'en reste 5, etc. Ça a une vraie représentation, et ça peut permettre aux plus jeunes ou à ceux qui ont un peu de mal, à pas se dire « oh là là, j'ai combien de points ?» ce qui est compliqué dans certains autres jeux.
Ça permet peut-être aussi un peu les rollbacks, ouais.
Oui, honnêtement, oui. Faut pas en abuser, hein, qu'on soit bien d'accord, mais oui, c'est quand même pratique. Non, c'est un petit plus, mais c'est agréable. Concernant l'univers de Star Wars, la licence est respectée par des mécaniques et des dynamiques spécifiques. Les effets des cartes, c'est un peu collé, mais c'est pas trop crade. Globalement, le matériel est de bonne facture, même si on n'en attendait pas moins de la part d'un spécialiste de la carte comme FFG. Les illustrations sont détaillées et fidèles à l'univers. C'est dommage, les illustrateurs ne sont cités qu'en fin de règle, en vrac.
Et donc ça reprend le visuel des films alors ?
Ça reprend le visuel des films, oui, tout à fait.
C'est du dessin qui va reprendre...
C'est du dessin. C'est entièrement du dessin, mais ça reprend le visuel des films, et c'est uniforme. Pas comme un Terraforming Mars où ça part dans tous les sens. Là, non mais bon, après, on aime ou on n'aime pas. Moi, je reproche que je suis à Terraforming Mars. Là, au moins, il y a une unité graphique, quand même.
Mais qui regarde les illustrations de Terraforming?
Voilà. Petit bémol, en vrai, pour être parfaitement honnête, le système pourrait se passer de la licence. Est-ce que c'est si cohérent? Je laisse chacun libre de répondre à cette question. Mais il faut reconnaître que c'est très compliqué de toute façon de faire coller une mécanique à un thème, donc j'en tiendrai pas rigueur au jeu.
Alors pourquoi t'as voulu nous parler de Clone Wars ?
Parce que dans la chronologie des jeux du mois, on n'avait pas parlé de la première boîte, et plus sérieusement, quelques éléments spécifiques à cette boîte. Cette édition introduit davantage de cartes permettant d'exiler celle de la ligne de galaxie, la rivière, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, une fonctionnalité utile pour surmonter les blocages de marché. Parce que oui, il peut y avoir une vraie frustration quand la rivière ne propose rien à l'achat pour un des deux joueurs. C'est une dynamique cool, le côté attaque, mais à subir, c'est pas très agréable et ça peut casser la dynamique du jeu, et donc donner un truc un peu à sens unique.
Parce que du coup, tu peux te retrouver avec des points d'achat que tu dépenseras pas parce que t'as pas de carte que tu peux acheter, quoi, c'est
si
ça ?
On peut... Alors, s'il n'y a aucune carte, ni neutre, ni à ta couleur, oui. Ça m'est jamais arrivé, potentiellement ça peut arriver, et j'imagine que ça doit pas être plaisant.
C'est clair. T'as un peu l'impression de perdre un tour.
Voilà, c'est ça.
Et du coup, tu peux tuer des cartes qui sont pas de ta faction et espérer que ce qui ressort immédiatement soit ta couleur et que tu puisses l'acheter. Ça, ça marche?
Ça, ça marche. Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Mais c'est ce qu'on disait plus tôt. On sait jamais dans un deck building à rivière, on sait jamais ce qui va sortir. D'une façon générale, je trouve que cette boîte permet beaucoup plus de combotage entre les cartes que le permettait la première boîte. Il y a une vraie évolution à ce niveau-là qui est extrêmement agréable. C'est hyper satisfaisant, même si ça peut allonger un poil le tour de jeu. Ce qui, pour un deck building, c'est pas encore de trop. Les parties restent dans une durée tout à fait tolérable, tout à fait acceptable. Les dynamiques spécifiques aux nouvelles factions, pas plus que ça. On n'est pas dans Magic où la couleur donne une façon de jouer radicalement différente. C'est dommage de pas l'avoir poussé un peu plus loin. Ça viendra peut-être avec des futures boîtes qui ont déjà été annoncées par FFG si celle-là fonctionne. À voir.
Et je pense pas que tu l'as dit, j'ai pas un souvenir, mais cette boîte-là, tu peux la mixer avec l'autre boîte, ou si tu joues avec la boîte 1, c'est que la boîte 1, et la boîte 2, que la boîte 2.
Non, on peut. Je reviendrai plus en détail après, mais oui, on peut tout à fait.
D'accord.
Oui. Le jeu essaie de capturer l'essence de la franchise, et de Clone Wars en particulier, celle de l'ère abordée à travers les personnages emblématiques tels qu'Anakin Skywalker, Ahsoka Tano, le Comte Dooku. Il manque quand même les midi-chloriens.
C'est peut-être pas un mal, non?
C'est peut-être pas un mal. Je tiens toutefois à apporter une mention spéciale, la carte Jar Binks, qui vaut 0 à l'achat et qui peut être défaussée chez l'adversaire. Le personnage étant universellement détesté, les auteurs ont fait la blague que les joueurs n'en veulent même pas dans leur propre défausse.
Oh, c'est méchant.
C'est méchant. En même temps, personne ne l'aime, c'est pas de ma faute. Alors justement, là je vais parler de la compatibilité du mode multijoueur. Les joueurs qui ont l'édition originale peuvent jouer en mode cross-édition, où les factions des deux jeux s'affrontent. Cependant, les decks ne peuvent pas être mélangés, ce qui limite quand même le potentiel de créativité stratégique. Mm. La boîte propose un mode multijoueur en 2 contre 2, qui introduit une dynamique de coopération. La République et les rebelles peuvent s'allier contre l'Empire et les séparatistes, ce qui renforce l'immersion dans les conflits à grande échelle. Ce qui est complètement anachronique par rapport à l'univers, mais faut faire abstraction de... Je tiens toutefois à déposer un petit coup de gueule. L'amateur de goodies qui est en moi est fâché. Je vais vous dire pourquoi. Les premiers acheteurs de la première boîte s'étaient vus offrir un magnifique lot de protège-cartes qui était vraiment sublime. Et bah là, Asmodée a décidé non seulement que non, pas de protège-cartes offert, mais en plus, le dessin du premier n'est pas commercialisé. Donc on peut pas harmoniser toutes ces cartes. Faudra se débrouiller.
Ah, si tu veux mixer les deux boîtes ensemble, tu veux dire.
Voilà, bon.
Et ils ont pas sorti de... Tu peux pas acheter de protège-cartes qui va bien?
Si, mais pas le dessin spécifique qui était offert avec la première boîte.
Bah, bon. C'est normal, comme ça il faut que tu rachètes aussi pour la première boîte.
Voilà, et ne pas utiliser ce qui était offert. C'est un peu, on est dans un cercle vicieux, mais oui, bon.
Un cercle commercial, tu veux dire.
Commercial, tout à fait commercial. Alors, le petit avis final.
Certains diront que le jeu ne se joue qu'à 2 ou 4, c'est ça?
C'est ça. Eh ben écoute, je serais tenté de dire oui. Mais si vous jouez, si vous voulez jouer à plus nombreux, bah choisissez un autre jeu. Voilà, faut savoir sur quoi on se lance. Hein. C'est un jeu qui va être accessible aux nouveaux venus dans l'univers du deck building, qui saura offrir suffisamment de profondeur pour les joueurs les plus expérimentés. Le thème pourrait rebuter les réfractaires à l'univers de Star Wars, même si au final il y a assez peu d'importance. Les spécificités du jeu lui permettent d'avoir une identité qui n'est pas juste Starrims avec une moustache, qui serait là juste pour faire vendre. C'est dommage de pas l'avoir cité en influence dans le livret, de toute façon c'est rarement le cas, alors que c'est sûr que Caleb Grace y s'en est inspiré. Il suffit de voir Scout et Caro Combo, le premier a inspiré le second. Si moi j'ai réussi à passer outre un terme qui ne me plaît guère, des étoiles, voilà la blague est faite, il n'y a pas de raison que d'autres n'y arrivent pas. T'as vu un peu?
Ah, c'est beau celle-là.
C'est beau.
Et du coup, bah, si on possède la deuxième boîte et qu'on n'a pas envie de jouer à 4, est-ce qu'il est indispensable d'acheter la deuxième?
Indispensable? Non. Mais elle n'est pas sans apporter son lot de nouveautés. Elle offre une belle rejouabilité, surtout une plus grande place au combotage. Et le fait de pouvoir croiser les boîtes, voire de jouer à 2 contre 2, est un plus à prendre en compte. C'est dommage de ne pas avoir des factions qui ont plus de personnalité, au-delà des personnages de la prélogie. Alors maintenant, je tiens à dire que Flavia m'a beaucoup aidé pour écrire tout ça. Et donc là, Flavien, je vais vous lire un petit passage qu'il a lui-même écrit directement, et qu'il a rajouté à la fin du conducteur. Flavien dit... Donc le système toujours solide et intéressant dans ses dynamiques. Et cette boîte est une occasion de le mettre en valeur. Peut-être de le découvrir. En tant que jeu, c'est chouette, même si moins de sensibilité thématique à cette boîte qu'à la première. Par contre, en tant que spin-off et ajout à une gamme, on aurait pu espérer plus de personnalités, plus de petits twists pour coller à de la période traitée. On est loin d'un Unmatched dont les nouvelles boîtes semblent vraiment soignées en termes de cohérence vis-à-vis des personnages et d'apport de nouvelles dynamiques du jeu.
Mmh.
Voilà.
Après, si les boîtes sont compatibles entre elles, on peut peut-être estimer qu'ils n'ont pas trop mis de personnalité pour pas qu'il y ait un vrai déséquilibre. Tu vois, si tu joues les boîtes en même temps,
mais bien
qu'il y a des factions...
Bien sûr, oui, non, évidemment. De toute façon, il fallait bien, c'était histoire de dire quelque chose d'un peu nuancé sur le jeu. Mais oui, c'est tout à fait compréhensible. Ça aurait été compliqué de mélanger les boîtes si vraiment c'était trop disparate. Oui, bien sûr. Non, ça, c'est évident.
Et donc, du coup, tu parles de factions dans la boîte, de chaque côté du...
Oui.
On va dire dans chaque camp. Mais tu prends qu'une faction quand tu joues ou tu prends le paquet de cartes et dedans, t'as plusieurs factions qui vont jouer en même temps?
Alors, chaque joueur commence avec une faction. Je vais, par exemple, jouer moi avec les séparatistes et toi avec la République.
Ouais.
Mais toutes les cartes sont dans un deck.
D'accord.
Toutes les cartes sont dans une pioche qu'on va mélanger. Et tout va arriver. En fait, on commence chacun avec sa couleur, mais non, toutes les cartes sont mélangées au début.
D'accord.
Ouais, ouais.
Tu joues tout le temps avec tout, ça marche.
Tu joues tout le temps avec tout. Et les deux decks de départ sont totalement symétriques. Ils n'ont pas le même nom, etc. Mais on a chacun 5 cartes d'attaque, 4 cartes d'achat, une carte un peu mixte. C'est vraiment la même chose des deux côtés. Et dans les deux boîtes, c'est pareil. Ouais, ouais.
Tu disais que les cartes se répondent pas exactement dans les pouvoirs, mais on peut imaginer qu'au global, ça soit effectivement assez équilibré.
Ouais. Ça va s'équilibrer, oui.
Mm.
Voilà.
Ok, d'accord. Bon, ben, on n'attend plus que la boîte 3 qui nous fait les épisodes 7, 8, 9, quoi.
Bah, écoute, c'est l'idée. Et puis après, il y aura peut-être de quoi, il y aura peut-être de quoi faire les univers étendus, les séries télé. Ah oui, je pense que s'il y a moyen d'élargir la franchise, de toute façon.
Ah. On peut leur faire confiance.
On peut leur faire confiance à ce niveau-là. Voilà. Donc, c'était Star Wars Deck Building Game Clone Wars Edition. Donc, petit rappel de la fiche signalétique, c'est un jeu de Caleb Grace et Frank Brooks, avec des illustrations d'un tas d'illustrateurs qui sont indiqués dans le livret si vous êtes intéressé. L'éditeur, c'est Fantasy Flight Games. C'est un jeu pour 2 joueuses et joueurs, voire 4 si on joue avec 2 boîtes. À partir de 12 ans pour des parties d'une trentaine de minutes. Et le jeu est trouvable à 34,90€ chez notre sponsor, la Caverne du Gobelin. Et c'est un jeu fabriqué en Chine.
Ok, merci beaucoup.
Mais je t'en prie.
Je suis pas trop fan de deck building game, mais j'avais bien aimé Star Realms à l'époque. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait.
Il a posé quand même des bases.
Ouais, c'est clair. Et j'ai jamais suivi, en fait, ce qu'on peut acheter plein de decks, enfin plein de boosters pour Star Realms. Maintenant, c'est devenu une vraie licence. Hein. Et j'ai jamais passé le pas pour voir ce qu'il y avait dedans. Je joue toujours avec le jeu de base, mais les rares fois que j'y joue.
Qui est largement suffisant. En France, on a eu très très peu de ce qui existe. Ah oui, c'est je crois qu'ils doivent nous faire un Kickstarter tous les 2 ans, tu vois, avec une plâtrée de matériel qui est jamais arrivé chez nous. Oui. Mm. Mais après, t'as raison, la première boîte, voire les deux premières, Star Realms et Colony Wars, sont largement suffisantes pour tout le monde. Oui, oui.
Ok. Merci beaucoup.
Eh, mais je t'en prie. Et maintenant, Drew, tu vas nous parler de Bomb Busters.
Exactement. Allez, c'est parti. Donc oui, je vais vous parler d'un jeu qui était très attendu, et pas que par moi, qui est Bomb Buster. Bomb Buster qui vient de sortir, c'était mi-octobre je crois, chez Cocktail Games. Donc c'est un jeu de Hisashi Hayashi, et illustré par Dominique Ferland. Alors, sur la boîte, c'est marqué Doom 2D, pardon. Mais j'ai réussi à trouver sur BGG le nom de l'illustrateur. C'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs ou joueuses avec des parties de 20 à 30 minutes. Alors on va voir ce que c'est exactement une partie parce qu'en général on a tendance à les enchaîner. Et le jeu est fabriqué en Chine. On peut le trouver, enfin je dis on peut. On peut plus le trouver parce que à l'heure où on enregistre là, on est début décembre, il est en rupture un peu partout, et ça ne reviendra pas en boutique avant la fin décembre, voire début janvier 2025. Mais en général, vous le trouverez à 32,90€ sur le site de la Caverne du Gobelin.
Victime de son succès.
Fortement victime, oui. Donc je vais reprendre un peu le contexte. Si vous écoutez Proxy Jeux, je pense que vous avez déjà entendu parler de Bomb Buster, plus d'une fois d'ailleurs, parce que ça avait commencé avec Hammer, qu'il avait entreaperçu lors de sa visite du salon de Nuremberg, donc c'était début 2023. Après, BenoFX avait pu y jouer et nous en avait parlé dans le débrief de Cannes de cette année. Et enfin, Cyrus et Julien avaient encore pu mettre la main dessus et en avaient parlé dans le débrief de Parthenay de cet été. Et donc, c'est un jeu, comme je disais, qui attire et intrigue, et il était donc normal qu'on en fasse un jeu du mois.
Après une telle saga, oui, c'est normal, effectivement.
Ah, faut finir en beauté. Jusqu'à ce qu'il ait l'as d'or, qui sait.
Eh, à voir.
Donc je vais revenir un petit peu sur son auteur, Hisashi Hayashi, on le connaît, hein, c'est dans le monde du jeu, on le connaît notamment pour Yokohama, The Number, qui est un petit peu plus récent, ou Trains, donc, que tu citais un peu plus tôt dans l'émission, qui est le jeu qu'il a fait connaître, principalement, qu'il a fait sortir de l'ombre.
Voilà, un deck building avec un twist.
C'est ça. Et donc, Bomb Buster... À l'origine, c'est un jeu qui est sorti en 2020 au Japon, chez Okazu Brand, et qui n'est pas sorti ailleurs qu'au Japon. On sait que le marché japonais est assez fermé, et ça s'appelait à l'époque Bomb Squad. Donc en 2020, sorti au Japon, Cocktail Games, dans la foulée, signe les droits pour le jeu et va développer le jeu pour y apporter des modifications assez substantielles et le sortir donc mi-octobre 2024, il y a quelques semaines. Petit avertissement pour les adeptes des jeux Cocktail Games, on est sur un jeu un peu plus gros en termes de difficulté et en taille de boîte aussi d'ailleurs.
On n'est plus dans la petite boîte carrée, oui, effectivement.
Non, que l'on glisse dans la poche pour emmener avec soi. Alors, c'est un jeu coopératif et de déduction dans lequel nous sommes des démineurs et des démineuses, et comme dans tout bon film sur ce thème, ben on va devoir couper des fils pour désamorcer une bombe. Pour cela, on va avoir dans la boîte des petites tuiles, de 1 à 12, et chacune en 4 exemplaires. Ces petites tuiles représentent les fameux fils à couper. Elles vont être réparties de manière aléatoire entre les joueurs, et de façon cachée, chacun va les ranger par ordre croissant, c'est important, dans un support devant soi. Le but va être alors de faire des paires de fils entre ceux que j'ai dans mon jeu et les tuiles similaires dans le jeu de mes petits camarades. Évidemment, les tuiles qui sont dans le support, je vois les miennes, mais je vois que le dos des tuiles de mes camarades. Et j'ai donc pas d'infos sur ce qu'ils ont. Dit comme ça, ça ressemble à de la devinette pure, mais on va quand même avoir des indications pour nous aider. Alors déjà, avant de démarrer la partie, chaque joueur ou joueuse va prendre une petite étiquette, qui sont d'autres petites tuiles à côté. Ces étiquettes, elles ont une valeur, et donc il va la placer sur la table, en face d'un de ses fils, pour indiquer la valeur de son fil. Et comme ça, on va savoir que ben là, c'est un 8, par exemple. En plus, pour nous aider, on va chacun avoir des pouvoirs. On va avoir une carte à usage unique qui nous permet de viser deux tuiles côte à côte chez un camarade et de dire ben, dans ces deux tuiles-là, là, ben, c'est un 8, ce qui permet de cibler un peu plus large. Et une autre aide, ben, ça va être des équipements qu'on va débloquer quand on coupe un fil de la valeur correspondante. Typiquement, si je coupe un fil 6 que je débloque l'équipement, ben, l'équipement 6 il va me faire regagner une vie. Hey, parce qu'on a des points de vie, on va pas perdre dès qu'on se trompe. Donc si on se trompe, dans le numéro de fil qu'on vise, on perd un point de vie, on a autant de points de vie que de personnes autour de la table, et en plus, comme on s'est trompé, ben, le joueur ciblé va reprendre une petite étiquette pour nous dire que le fil qu'on pensait être un 5, eh ben non, c'est un 4. Et donc maintenant, tout le monde va avoir en visuel la valeur de ce fil-là. Donc on va commencer comme ça à créer un faisceau d'indications. Parce que déjà, devant moi, bah, j'ai mes tuiles. Je sais quelles tuiles j'ai, donc celles que j'ai, bah, elles sont pas chez les autres. En plus, on voit les étiquettes que chacun a mis. Donc, et en plus, c'est, en fonction d'où il l'a mis, ça va nous donner des indications. S'il a mis le 8 plutôt du côté des faibles valeurs, ben bah, ça veut dire qu'il a beaucoup de fortes valeurs. Et donc, si je cherche un 2, ben bah, je vais peut-être pas aller chercher chez ce joueur-là, parce que ben bah, je sais qu'il a plutôt des grosses.
Façon trio, un petit peu, non?
Ouais, façon trio. Alors, trio, à la différence, c'est que tu peux cibler que tes extrémités.
Oui.
Là, tu peux cibler un peu tout le jeu.
Mais effectivement,
jeu.
Ce qui me faisait penser, c'est que si tu demandes à la personne sa plus petite et qu'il te sort un 4, ça te donne une idée que forcément, au-dessus, qu'il a que au-dessus de 4. Voilà, c'est pour ça que
c'est
pensais
ça.
À ça. Très bien.
Aussi.
Ouais, ouais.
On verra, il y a une filiation, je pense. Enfin, une filiation. Il y a un rapport avec Trio, effectivement.
Ah, bah, très bien.
Et en plus, donc, dans ce faisceau d'indications, il va aussi falloir écouter et retenir un minimum d'infos. Parce que si ma voisine de gauche demande un 10, mais qu'elle se trompe, donc le joueur chez qui elle s'est trompée va mettre une étiquette, mais ça veut quand même dire que bah, la joueuse à ma gauche, elle a un 10 dans son jeu. Mais ça sera pas indiqué. Donc, faut que je retienne un peu que à ma gauche, il y a un 10.
Oui, il y a aucun intérêt à aller chercher un chiffre que t'as pas chez toi.
Aucun intérêt, okay. À moins que tu ailles faire paix de le collectif, mais...
Ah, parce qu'il y a un traître en plus, mais c'est génial.
Ah, ça pourrait. Mais je sais même pas si c'est précisé dans la règle qu'on ait le droit ou pas de demander un chiffre qu'on n'a pas. Je pense pas, enfin,
bon,
il n'y a pas d'intérêt, on va dire.
Non.
Dernier point de règle, si à un moment, dans mon jeu, j'ai tous les fils restant d'une valeur... Je peux les sortir à mon tour, c'est-à-dire que s'il y a déjà deux tuiles 4 qui ont été coupées et que j'ai deux dernières, ben à mon tour, je vais faire ce qui s'appelle une coupe en solo, et je sors les deux tuiles 4 restantes et je les pose sur la table.
C'est le seul moyen de faire des paires chez soi.
C'est ça.
Très bien.
Mais ça veut aussi dire que dès le début du jeu, si j'ai les 4 fils numéro 4, j'ai le droit de sortir les 4 en même temps parce que j'ai toutes les tuiles 4 restantes dans le jeu. Donc on peut faire une coupe solo de 4 fils d'un coup. Et du coup, bien délester sa main parce qu'on a en gros une douzaine de tuiles.
Oui.
Bon, ça, c'est donc les fils de base. Mais c'est pas tout. Je parlais tout à l'heure des films de désamorçage de bombes. Et dans tous les films de désamorçage, il y a le fameux fil rouge. Celui où tout explose si on y touche. Et bien là aussi, on va avoir une mécanique de fil rouge dans le jeu. On en aura plus ou moins en fonction de la partie, et ces fils rouges vont avoir des numéros en 0,5. Donc on va avoir le 4,5, 7,5, 8,5. On en a dans tous les intervalles entre 1 et 12, donc on a du 1,5 au 11,5. Cette tuile-là sera mélangée avec toutes les autres tuiles en début de partie, et sera donc distribuée avec les autres tuiles. Et on ne sait pas où il va se trouver, puisque ben, c'est un joueur qui va le tirer. Et si par mégarde, on se trompe et on en vient à couper le fil rouge, eh ben la partie est instantanément perdue. Là, on ne va pas parler de points de vie, hein, même si on est complet au niveau des points de vie. On a coupé le fil qui fait tout péter, c'est fini, il n'y a plus qu'à recommencer la partie.
Mort subite.
C'est ça. Et le seul moyen donc de couper le fil rouge, c'est qu'en fait, il faut que le joueur qui a le fil rouge sur son râtelier le coupe en dernier. Donc en gros, qu'il n'ait plus que le fil rouge à couper, et donc il le sort, et c'est terminé pour lui. Peut-être que les autres joueurs ont encore des tuiles à finir entre eux, mais en tout cas, lui n'aura plus à jouer dans cette partie. Un autre fil, ou une autre catégorie de fil un peu spéciale qu'on va trouver dans le jeu, ce sont les fils jaunes. Eux, ils sont en 0,1. 2,1, 3,1, etc. Pareil, on va trouver tous les intervalles. De la même manière, ils vont être ajoutés au jeu de départ, hein, dans les tuiles, on mélange, on les donne. Et pour les couper, là, on va pas trop regarder les valeurs. Il va falloir que je cherche un fil jaune pour être coupé avec mon fil jaune. Donc en gros, si j'ai le 2,1, il va peut-être falloir que j'aille chercher le 8,1 pour le couper. Et là, on peut les sortir à n'importe quel moment du jeu, du moment où on désigne, tiens, toi, cette tuile-là, c'est une tuile jaune. Hop, on sort tous les deux nos tuiles jaunes, et c'est réglé pour ces fils-là.
Ouh, compliqué.
C'est compliqué, mais ah, en oui. Fait, que ce soit les fils rouges ou les fils jaunes, avant de jouer, on connaît leurs valeurs. Ils ne sont pas tirés au hasard, ils sont tirés au hasard parmi tous les fils, mais on sait que ça va être telle valeur et telle valeur. D'ailleurs, ça sera matérialisé quelque part sur un plateau central où on va mettre des petits jetons pour nous rappeler.
Ah, j'étais en train de m'imaginer avancer dans le noir, tu sais, essayer de dire, il est où le jaune, il est où le jaune. D'accord, tu sais quand même qu'il faut que tu vises vers le 8 ou vers le 4, très bien.
C'est ça, c'est ça. Ou en tout cas, que quand tu te rapproches du 8 ou du 4... tu fasses gaffe, quoi, si ouais, tu ouais, cherches pas sûr. Spécifiquement à faire les jeux. Donc avec ça, tu as toutes les règles du jeu de base. Et avant de continuer, je vais revenir un petit peu sur le jeu d'origine sorti au Japon qui s'appelait Bomb Squad. Parce que tout ce que je viens de décrire, ça correspond à Bomb Squad. Avec, en plus, dans les règles, une liste de 50 scénarios qui fait beaucoup penser à The Crew. Je sais pas si t'as déjà joué à The Crew.
Oui, oui.
Et bien, The Crew, tu vois, on te donne tout le matériel et on va te faire un petit peu varier les règles en te disant, ben, cette règle-là, tu fais comme ça, cette règle-là, tu ajoutes ça, cette règle-là, tu fais ça. Et bien là, la version japonaise, c'était ça.
D'accord.
Tu avais tout le matériel et on te faisait varier un petit peu les contraintes. Tu pioches 4 rouges et t'en gardes que 3, mais tu sais pas lesquels 3 c'est, mais tu sais quand même à peu près quelle valeur on a dans le jeu. Pareil pour les jaunes, ou alors ben le capitaine ne donnera pas d'indication de départ, ou alors il faut couper les 4 avant les 3. Voilà, toutes sortes de scénarios comme ça qui vont tourner autour du matériel disponible dans la boîte et corser un petit peu le jeu au fur et à mesure. Mais dès le début, tu vois toutes les missions et tu peux regarder, voire en sauter pour aller faire des missions plus difficiles ou autre.
D'accord.
Donc ça, c'est le jeu de base. Et maintenant, si on regarde Bomb Buster, donc qui est son descendant, on va dire, en tout cas son retravail de la part de Cocktail Game, bah déjà, c'est affiché en gros sur la boîte, on part sur 66 missions au lieu de 50. Et quand on ouvre la boîte, et ben là, on n'a pas accès à tout le matériel. On va déjà tomber sur 5 petites boîtes fermées qu'on ne doit pas ouvrir, c'est dit dans la règle,
d'accord.
Et qu'on ouvrira uniquement quand on aura atteint le numéro de la mission correspondante, puisqu'on a des plages de missions sur chaque boîte.
D'accord. Donc là, contrairement au jeu de base, entre guillemets, on doit les faire dans l'ordre.
C'est ça.
Très bien.
On va les faire dans l'ordre en commençant par un petit paquet de cartes qui est disponible quand on ouvre la boîte, qui sont les 8 premières missions et qui sont un gros tutoriel pour nous apprendre à jouer,
oui.
Grosso modo avec les règles que je viens d'expliquer.
Ouais.
Et du coup, ben, on est passé d'un jeu à scénario, le jeu japonais,
oui.
À un jeu en campagne. Parce que là, il faut le faire dans l'ordre. Il faut faire les boîtes dans l'ordre, et notamment parce que, je ne vais pas vous divulguer chez le jeu, mais en gros, pour jouer à la boîte 3, il va peut-être falloir des éléments qui sont dans la boîte 2. Donc on est obligé comme ça d'aller crescendo dans les numéros de mission et de monter comme ça.
Mmh.
Dans les boîtes, ça va venir nous ajouter du matériel et des règles. Des règles qu'on va venir par un jeu de stickers collés sur la règle papier d'origine que l'on va comme ça agrémenter, comme on peut le voir dans des Pandemic Legacy ou autre. Et du coup, même si c'est pas obligatoire, c'est quand même mieux, et je conseille fortement de faire la campagne avec les mêmes joueurs. Déjà pour les règles, mais aussi et surtout parce que je disais en intro que c'était un jeu coopératif et de déduction, mais c'est aussi un jeu de déduction coopérative. Je m'explique, au fur et à mesure qu'on progresse dans la campagne, on va aussi créer une communication coopérative, je dirais. On va apprendre comment les autres joueurs et joueuses jouent, communiquent, placent leurs tuiles. On va mettre en place des conventions plus ou moins implicites et on va commencer à aider nos camarades. C'est-à-dire que, par exemple, à un certain moment, on pourrait faire une coupe en solo et puis voilà, j'ai joué mon tour, j'ai pas fait péter la bombe, j'ai fait mon boulot. Et hop, au joueur suivant. Ça, on a tendance à le faire au départ, surtout quand les missions sont simples.
Ouais.
On va jouer son tour et puis, allez, débrouille-toi toi maintenant. et au fur et à mesure de la campagne, on va commencer à avoir une vision plus globale, notamment parce qu'on va commencer à perdre des parties aussi. Hein. Et on va plutôt se dire, ben là, si je fais ma coupe en solo, c'est cool, mais les prochains joueurs, eh ben, ils n'ont plus d'indication sur la table de ce qu'ils peuvent jouer. Et ils vont peut-être être obligés de taper au hasard. Et en tapant au hasard, ben, peut-être nous faire perdre une vie ou peut-être même tomber sur une tuile rouge et on va tout perdre.
Alors que si tu cherches un 10, ils sauront que tu as un 10. Je vois tout à fait le...
Voilà. Ou si tu dégages une telle tuile, ben, ça va peut-être leur dire que ben, si tu dégages les 7, ils vont peut-être voir qu'à côté, c'est peut-être un 8, tu vois.
Ouais, ouais, ouais.
Et si tu sais qu'il y a du monde qui cherche du 8, ben, c'est peut-être donner un indice. Donc comme ça, on va réfléchir au coup d'après plutôt qu'au coût immédiat.
Mmh.
Et c'est vraiment quelque chose qui arrive avec l'expérience, avec le jeu. Et c'est d'autant plus vrai en fonction du nombre de personnes. Il y a différentes configs, hein, je disais, le jeu est annoncé de 2 à 5 joueurs et joueuses. À 4 et 5, le jeu se joue pareil, hein, chacun a un chevalet pour mettre ses tuiles, et on en a du coup plus ou moins, mais voilà, ça marche basiquement pareil. En revanche, si on est à 2 ou 3 joueurs, il va y avoir un aménagement des règles, de manière à toujours avoir 4 chevalets supports sur la table. Donc à 3, il y a le capitaine, en gros le premier joueur, hein, qui est nommé capitaine, lui, il aura 2 chevalets. Et à 2, ben, les 2 joueurs auront 2 chevalets, de manière à ce qu'il y ait toujours 4 chevalets supports sur la table.
D'accord. Alors, est-ce qu'à 2, chacun joue 2 personnages, ou t'as quand même, tu partages l'information, tu vois ce que
non.
Je veux dire ?
Effectivement, tu joues toujours qu'un personnage.
D'accord.
Un personnage peut-être un petit peu schizophrène, ou oui. Bipolaire. Ou... Mais voilà, chacun aura 2 chevalets,
ouais.
et même ce qui est pire, c'est que dans l'indication de départ, chaque joueur ne donnera qu'une indication. Même s'il a 2 chevalets, du coup, il doit bien choisir sur lequel il met quelle indication.
Oui.
C'est même encore un peu plus retors. Et quant au jeu avec 2 chevalets, ce qui est encore un peu plus tricky, c'est que je ne peux pas couper un fil de mon chevalet de gauche avec un fil de mon chevalet de droite. Non, on est le même joueur. Je vais devoir aller chercher des tuiles sur les chevalets des autres joueurs. Ou alors... Si j'ai les 4 fils, là, je peux encore faire une coupe solo. Si j'ai les 4 fils répartis sur mes 2 chevalets, là, je peux sortir les 4 de manière plutôt classique. À 3, la variante marche pas trop mal. C'est d'ailleurs dans cette configuration-là qu'on joue à la maison. Quand on va avoir le rôle du capitaine, on va souvent être dans le rôle du donneur d'infos.
Ouais.
On a beaucoup de tuiles devant soi. Hein. On peut souvent faire des coupes solo, très rapidement. Mais c'est pas le plus intéressant comme coup à jouer, pas le plus intéressant pour le collectif en tout cas. Et on se demande souvent, quand on est capitaine, ce qu'on pourrait donner comme info aux autres personnes. Et souvent, on a beaucoup d'infos qu'on peut donner, il va falloir faire le tri, prioriser, savoir ce qui va le plus arranger les autres. Et ça, je trouve que ça amène une nouvelle note au jeu par rapport au jeu à 4. Clairement, le jeu à 4, on sent que c'est pour ça qu'il a été conçu.
Mmh.
Clairement, c'est à cette... dans cette configuration-là que je préconiserais d'y jouer aussi de manière prioritaire.
Ouais.
Mais je trouve que le jeu à 3 est intéressant pour cette petite notion. J'ai essayé aussi la variante à 2. J'ai pas fait des masses de parties, hein, mais je l'ai essayé pour la science, on va dire. Et je trouve que c'est très différent dans le ressenti. Puisque, en gros, j'ai mes tuiles devant moi, et je sais que celles que j'ai pas, ben, c'est ce qu'a mon camarade, puisque tout est distribué.
Forcément.
Donc, en gros, on va se retrouver devant un jeu très mécanique, où on va juste chercher à savoir, assez basiquement, hein, où se trouve chaque tuile de l'autre. J'ai trouvé ça assez froid et assez mécanique, Et clairement, je conseille pas d'acheter le jeu si on est vraiment que deux joueurs et qu'on fera que la campagne à deux. J'ai pas fait toutes les missions hein, pour voir, mais clairement, on perd un petit quelque chose et j'ai l'impression que le sentiment de jeu sera vraiment, vraiment différent. Et c'est un petit peu le retour que j'en ai à droite à gauche des gens qu'on peut l'essayer à deux. Ils ont pas senti le sel du jeu, quoi.
Oui, donc tester pour avoir un aperçu de ce que ça donne à deux, pourquoi pas, mais pas au-delà, quoi.
Ouais, pas en fonctionnement principal. Vous ferez pas les 60 missions, en tout cas, vous vous éclaterez pas autant.
Ouais,
quoi.
D'accord.
Non, je dirais plutôt 4 ou 3, puisque ben, ces sensations à 3, on ressent vraiment, tu vois, à 3 comparé à 4, que le capitaine a un rôle différent. Mm-hmm. Quand t'es à 4, t'es un capitaine, ouais, mais t'as autant de tuiles que les autres, voilà, tu peux avoir les mêmes pouvoirs, enfin, t'as les mêmes pouvoirs que d'autres. Bon, là, à 3, t'as vraiment un rôle d'indicateur, de meneur. Tu vas essayer d'aider les autres parce que ben, si tu leur donnes pas du grain à moudre, il y a de grandes chances qu'ils se plantent et que ben, on recommence, quoi.
Et à 5, les infos sont pas trop parcellaires, trop divisées.
C'est à 5 pour moi, j'ai fait une partie à 5. J'ai trouvé que en gros les tuiles sont diluées.
Ouais.
T'as moins cette notion de réflexion et plus cette notion de chance.
Ouais.
En gros, tu vois, tu vas avoir 4 tuiles 1 réparties sur 5 personnes. Alors dans le meilleur des cas, il y a 4 personnes qui en ont et une personne qui en ont pas.
Ouais.
Il y a très forte chance qu'il y ait 2 ou 3 personnes qu'on n'ait pas, tu vois.
Ouais.
Et du coup, ça, c'est plus, j'ai trouvé plus du hasard, même si au final, t'as plus d'infos, parce que comme t'as 5 chevalets, 5 indications, bon, mais j'ai moins apprécié à 5, tu vois.
Qu'à 4, d'accord, en tout cas. Ouais, je vois.
Tout à l'heure, tu me parlais de trio, et moi, j'ai ressenti, dans les premiers temps, une forte tendance, effectivement, un fort rapprochement de trio. Alors, ce qui est bizarre, parce que trio est sorti il y a un an, et en gros, le développement était simultané, presque, tu vois.
Oui.
On peut pas dire qu'un jeu s'est inspiré de l'autre, puisque ce jeu-là est sorti en 2020, et je pense que trio a dû sortir à peu près, en tout cas la VO, dans les mêmes temps, Nana.
Ouais.
Et donc, du coup, il n'y a pas d'inspiration de l'un sur l'autre, je pense pas. Et on est vraiment sur des synergies un peu similaires. Surtout qu'au début du jeu, t'as plutôt tendance à aller chercher les extrémités. Parce que tu te dis, ben, le 1 ou le 12, ils vont être sur les bords. Donc,
forcément,
tu vas prendre un peu une mécanique à la trio.
Ouais.
Et c'est un petit peu les jeux, les numéros que tu vas aller chercher prioritairement. Donc, dans les premières parties, tu te dis, waouh, c'est vraiment un trio. C'est sûr, c'est pas le même auteur, là, parce que ça ressemble quand même beaucoup, quoi. Et effectivement, on retrouve aussi le sentiment de trio avec ses numéros de 1 à 12, d'aller piocher chez mes camarades. Mais bon, ça s'arrête là, parce que trio, c'est pas du coopératif.
Oui.
On retrouve aussi un petit peu d'Anabi, avec ce côté déduction, donner des indications aux autres sur ce qu'ils ont dans le jeu. Mais en tout cas, un peu à l'envers, parce qu'Anabi, c'est nos tuiles qui sont à l'envers et je vois toutes les tuiles des autres. Mais voilà, un petit peu ce sentiment de donner des infos. Et encore, un autre jeu Cocktail Games, ça on l'a pas dit avec Trio, mais c'est aussi un Cocktail Games. On reste dans le giron. Et ce que j'ai trouvé aussi un peu comme sentiment lié à notre jeu, c'est du The Crew. J'en parlais tout à l'heure, avec ces notions d'indication qu'on va mettre un peu comme un appel dans un jeu de pli, tu vois, ou comme les communications dans The Crew où tu peux sortir des cartes pour montrer aux gens. Et ben, toi, on va avoir comme ça des tuiles qu'on va montrer aux gens, enfin des indications sur nos tuiles. Et ces notions de mission à réaliser avec une difficulté écrite à crescendo, donc tu vois, un petit peu de The Crew aussi en arrière-plan.
Ouais.
Et en parlant de difficulté, je vais revenir un petit peu sur mon parcours entre guillemets avec ce jeu. On l'a pas encore fini à la maison. On en est à la mission 52 sur 76 parties jouées. Donc on voit qu'il y a eu un peu de casse quand même. Hein. On gagnait pas à tous les coups.
Effectivement.
Globalement, la difficulté va croissante. Même si je trouve que dans ce qu'on a fait, il y a des missions qui nous semblaient plus faciles que d'autres alors qu'elles sont arrivées plus tard dans les scénarios. Mais faut faire attention parce que il y a quand même du hasard dans ce jeu. Hein. Comme dans un jeu de pli, au début, on va distribuer les tuiles au hasard. Et justement, comme dans un The Crew, selon la répartition de la donne, bah, une mission peut s'avérer complètement impossible à faire et on va la perdre tout de suite et recommencer avec une autre répartition qui ira beaucoup mieux. Et là, on va rouler sur le scénario. Donc, on a comme ça des choses qui peuvent varier, des sentiments qui peuvent varier sur des missions simplement par la donne de tuiles au départ. On imagine, si on a beaucoup de coupes en solo, chacun avec 4 tuiles identiques, bah, tout de suite, on va vider très rapidement notre chevalet et il sera beaucoup plus simple de deviner ce qui nous reste.
Forcément.
Bon, après, ça, c'est la règle d'un jeu comme ça où on va distribuer des choses. Hein. C'est clairement un jeu en campagne, mais on n'est pas dans un dans du bridge en compétition où les donnes vont être renseignées dès le début et on va jouer tous avec le même jeu prédéterminé. Non, oui. Ça va pas jusque là, quoi. C'est vraiment que le but de la mission à réaliser qui est donné. En termes de sensation de jeu, c'est clairement un jeu qui prend tout son charme à être fait en campagne. Et je dirais même à être fait en campagne avec des parties assez rapprochées. Pas laisser trop de temps entre chaque partie pour que justement cet apprentissage commun de cette synergie, on va dire, commune entre deux missions reste et qu'on garde un petit peu nos réflexes en tête. On a aussi une excitation, la découverte, hein, sur ce qui est caché dans ces boîtes. Ça c'est clairement le jeu des jeux comme ça en campagne. Un pandémie, pareil, quand on va ouvrir des boîtes, qu'est-ce qui se cache dedans, c'est quoi le nouveau matériel, c'est quoi la nouvelle règle qu'ils vont nous inventer. On a tout ce petit sel quand on arrive au bout de la mission d'une boîte, on dit « Ah, on arrive à l'autre, vite, vite, qu'est-ce qu'il y a, quoi ?» Après, si on prend un peu de recul et qu'on se regarde en train de jouer, hein, ou si on regarde d'autres tables de Bombbuster en train de jouer, eh ben, on est sur un jeu assez sérieux. Alors, pas au sens serious game, hein, mais plutôt dans l'ambiance autour de la table. On est concentré, on réfléchit, on déduit, on va interpréter les demandes de nos camarades. Donc voilà, c'est durant la partie, c'est quand même assez soft et il n'y a pas un bruit autour. Je dis pas qu'on est sur un order overload café. Voilà, c'est quand même assez sérieux et surtout à la fin de la partie, qu'on ait perdu, qu'on ait gagné, ben on refait le match, quoi. On te dit tiens, quand t'as sorti ça, on a eu chaud parce que t'es passé juste à côté du rouge, ou on dit bah tiens, t'as vu, je t'avais mis cette tuile là pour pas que tu viennes là, pour t'indiquer que. Mm-hmm. Donc on a comme ça tout ce débrief, tu vois, qui est assez sympathique et qui contribue pour moi à l'apprentissage collectif de comment jouent mes petits camarades et à créer un petit peu cet apprentissage. Et c'est là où je me pose toujours des questions quand c'est comme ça, c'est mais jusqu'où j'ai le droit de dire comment je joue, tu vois, parce que dans la partie, je l'ai pas dit, mais dans les règles, on doit pas communiquer ce qu'on a, on doit pas donner d'infos, les gens doivent trouver. Mais après, quand on débrief, tu dis, ah ben, t'as vu, je t'avais mis l'étiquette là pour que tu devines ça. Mais si je dis ça parce que je l'ai fait maintenant, c'est aussi parce que je veux le dire pour que les prochaines parties, tu t'en souviennes, tu vois.
Évidemment.
Et, tu vois, on est en train de mettre un peu une convention en place et je suis toujours interrogatif sur, pas l'intérêt, mais sur l'intérêt ludique de mettre une convention parce qu'on va peut-être trop se simplifier. Pour la suite, je sais pas. J'ai toujours cette petite question.
Puis après, de toute façon, si tu le dis pas, est-ce que les autres joueurs vont pas le déduire au bout d'un moment que tu joues de telle façon? C'est ce que tu disais avant.
Oui, ben,
donc
c'est
ouais, effectivement, ouais.
Après, je pense qu'il faut clairement pas se donner des techniques dès le début. Voilà, on va se dire, t'as vu ce que j'ai fait? À partir de maintenant, on fait tout le temps comme ça. Mais voilà, sinon, c'est se gâcher un peu le jeu. Après, ce que je voulais dire, c'est que on est sur un cocktail game, mais attention, on n'est clairement plus dans un party game, à l'habitude des jeux de l'éditeur.
Oui.
Et même si je pense que le public que vise habituellement cet éditeur peut jouer à ce jeu, je pense pas que c'est ce public-là qui ira au bout des 66 missions.
D'accord.
Je pense plutôt que le jeu vise un public un peu plus initié et un public clairement adepte des jeux de déduction. Et voilà, que ça rechigne pas, tu vois, d'être dans un jeu sérieux, de se poser et de jouer. Même si les parties sont relativement courtes, hein, tu vois, une partie en moyenne, je dirais que ça dure 15 minutes, quoi.
Et 15 minutes pour une partie, ouais, tout à
voilà.
Fait, ok.
Peut-être même moins, si tu tombes sur le fil rouge rapidement, ça peut durer 2 minutes, mais... mais voilà. Mais...
Time bomb, clic, 30 secondes, fini, voilà, merci d'être venu. Oui, je vois tout à fait le genre.
Tout à fait possible. Et tu vas mettre plus de temps à remettre le jeu en place que...
le jeu en place. Qu'à jouer. Après, là, je viens de regarder à l'instant sur BGG, le poids donné est de 2,03 sur 5.
Ouais.
Ce qui est pas lourd. Effectivement, ça reste, comme tu dis, ça reste très accessible pour le grand public. Oui, oui.
Et effectivement, ça permet à un grand public d'aller crescendo, on va dire, dans la difficulté. Mais je pense, tu vois, que c'est cette longueur dans le jeu.
Ouais.
Parce que, tu vois, là, on a fait 76 missions. Enfin, on a fait 76 parties pour réussir 52 missions. En gros, si tu te comptes 15 à 20 minutes par partie, on enchaîne des dizaines d'heures de jeu, là. Donc, je pense pas qu'un public non initié aille...
Répartis sur combien de temps?
Là, on a joué depuis la sortie du jeu, donc ça fait un mois et demi, tu vois.
Ouais, c'est quand même un vrai investissement.
C'est, ouais, on est des joueurs assez assidus.
Non, mais bien sûr, mais... je dis pas ça, mais c'est faut prévenir quoi, quand même. Si les gens se lancent là-dedans, sachez que faut y aller quoi.
Ouais. Après, nombre de joueurs achètent des jeux en campagne, ils vont pas au bout de la campagne. Hein. C'est aussi une possibilité, mais mais voilà. Donc en tout cas, attention, on n'est pas sur un cocktail game classique. C'est du jeu un peu plus sérieux, on va dire. Après, pour parler matériel et de la qualité du jeu, j'ai retrouvé qu'on retrouvait bien la patte de Cocktail Game. On a un jeu bien fini, avec un petit peu d'humour, hein, malgré le thème un peu guerrier, puisque on est des animaux, des mineurs, dans un univers cartoonesque. Là où le Bomb Squad à l'origine était vraiment très réaliste.
D'accord.
Et peut-être un peu stressant,
ouais.
Un peu oppressant. Là, on est redescendu dans quelque chose qui est plus acceptable, entre guillemets, malgré ce thème. Le matériel est soigné, même si on peut peut-être regretter les supports de tuiles. Tu vois, dans Bomb Squad, c'était des beaux supports en bois.
Ah.
Là, ça a été remplacé par des supports en plastique thermoformé.
Ouais.
Alors, c'est du plastique, c'est pas du bois, mais comme ça, de visu, ils sont certainement plus pratiques et plus stables que ceux d'origine. Parce que ça avait l'air, les tuiles avaient l'air assez... assez mal tenu, donc bon, je préfère un matériel qui tient bien qu'un matériel un peu plus noble.
Ok.
Après, j'ai vu des critiques sur la taille des tuiles. Donc, on a des petites tuiles de fil qui sont toutes en hauteur. Hein. Ça fait peut-être un petit centimètre de large sur 4 centimètres de haut. Et du coup, elles sont assez étroites. Et,
ouais.
Et je comprends la remarque, en fait. Le fait qu'elles soient assez étroites vont faire qu'elles ne sont pas très stables. Mais si on réfléchit ce que ça induit, si jamais on faisait des tuiles plus larges... Ben, comme on va en mettre jusqu'à 14-15 côte à côte sur le support, ben, ça veut dire que le support, eh ben, il prend de l'embonpoint. Et puis ce support, ben, c'est ce qui fait la taille de la boîte aussi. Parce que quand on ouvre la boîte, le support, il fait juste la largeur de la boîte. Donc
ah, oui.
Petit à petit, oui. Tu grossis les tuiles, tu grossis le support, tu grossis la boîte. La boîte qui est plus grosse se retrouve avec beaucoup de vide à l'intérieur. Donc au final, je pense que les tailles de tuiles, moi je les trouve pas mal. Mais c'est un avis personnel. Un petit bémol qu'on a pu avoir dans une mission, comme on est tout le temps en train de triturer les règles, nouvelles règles, règles qui surpassent la règle de base, et à un moment on s'est demandé si une des règles temporaires était toujours active sur une mission de la même boîte, tu vois. Tu fais la mission 15 et t'arrives à la mission 18, qui est dans la même boîte, et tu te dis, ben, la règle de la mission 15 est toujours valable là ou bien...
Ah, oui, effectivement.
Alors, ça nous est arrivé sur une mission, je sais plus trop laquelle, hein, j'ai cité des numéros, mais c'est pas ça. Mais bon, ça reste minime. En général, ils savent bien expliquer ce qui est valable, ce qui n'est pas valable. On comprend bien, mais là, on a juste un petit doute, donc on a joué selon ce qu'on comprenait. On a fait la mission comme ça, et du moment où tous les joueurs étaient d'accord autour de la table, ça pose pas de souci, quoi.
Oui, tu sais, c'est ce qu'on dit, hein. L'important, c'est de jouer avec les mêmes règles.
Exactement. Et c'était pas déconnant dans le sentiment de jeu, dans la difficulté. Donc,
d'accord.
Voilà. Mais voilà, il y avait un petit truc, tu te dis, tiens, c'est bizarre. Un autre petit bémol, alors... je vais essayer de pas vous spoiler. Jusque-là, je crois que j'ai réussi à pas trop vous spoiler.
Absolument.
Allez, je vais sauter de 10 secondes si vous voulez pas entendre ce que je vais dire. C'est pas du gros spoil. Hein. Ça arrive, c'est dans la première boîte. Mais si vraiment vous tenez à rien savoir, sautez 10 secondes. Mais en gros, dans la boîte, on va faire appel au téléphone et on va nous faire aller chercher quelque chose sur Internet. Et là, aujourd'hui, on a voulu jouer et le lien était mort.
Ah.
Je pense que c'est temporaire. Je pense que c'est un problème de serveur. Mais... là, ça met déjà un petit coup de canif dans le devenir du jeu plus tard, quoi.
Oui,
c'est minime en nombre de missions, mais voilà, quoi. Bref. Fin du spoiler. et je vais revenir sur le jeu et sur le matériel. Matériellement, le jeu est complètement rejouable une fois la campagne terminée.
Ah.
Puisque, en fait... quand on va ouvrir une boîte et découvrir du matériel, on va aussi recevoir un sticker que l'on colle sur cette petite boîte qui va nous dire ce qu'on range dedans. Donc
d'accord.
En gros, on est complètement capable de reconfigurer le jeu dans sa config de base à tout moment. Et on pourrait donc, comme ça, recommencer le jeu à zéro en campagne. On pourrait même, du coup, imaginer acheter le jeu d'occasion.
Alors justement, toi qui disais qu'on colle des stickers sur les règles. Si je veux recommencer, moi, une boîte à zéro qui a déjà été jouée. Quid de ces fameux stickers ?
Eh ben, alors, il y a des stickers sur les boîtes. Donc les boîtes, il faudrait pas trop regarder les boîtes. En tout cas, si tu as déjà joué au jeu, c'est pas trop problématique de voir. Mais si tu as acheté la boîte d'occasion, typiquement, il faudrait déjà retourner les boîtes, pas trop aller voir les stickers qu'il y a sur les boîtes.
Ouais.
Et après, pour les stickers dans la règle, ben, ils... faudrait, pour être sûr de ne pas les lire, il faudrait aller rééditer la règle sur le site de l'éditeur. Parce qu'en fait, d'accord, tes règles sont dispo en PDF, donc ben, tu y vas, tu prends ton PDF et tu l'imprimes, du coup, d'accord, en moins beau, peut-être en A4, mais tu pourrais comme ça avoir des règles vierges de nouvelles règles. Alors après, d'accord, se pose la question de, quand tu ouvres une boîte, la règle qui est collée dans la première règle, qu'est-ce que j'en fais, comment je fais pour pas voir celle d'après. Il y a un petit truc à voir, mais ce serait pas déconnant, si je compare à un autre jeu en campagne, typiquement un Pandemic Legacy, une fois qu'il est fait, ta boîte, tu peux l'acheter, elle est morte. Tu pourras pas la remettre en configuration et tu pourras pas la revendre, ça c'est clair. Tu pourrais rejouer en configuration finale, mais c'est tout, quoi.
Justement, ça fait partie, je sais pas si t'as écouté un ludopif d'un type qui s'appelle Kurtz, qui est passé il y a quelques temps.
Ouais.
Je suis pas mal, les jeux Legacy, ça m'attire pas du tout. C'est vrai que justement, non mais j'allais te poser la question, vends-moi Bomb Squad, sachant que je n'aime pas les jeux Legacy.
Alors tu peux y jouer, parce que en fait, alors je crois que c'est Sébastien du Passe-Temps qui disait, en fait on a un jeu et on a 66 jeux différents parce que c'est 66 règles.
Mmh.
Alors j'irai pas aussi loin que ça, parce qu'on a quand même des missions qui se ressemblent un petit peu, donc on n'a pas 66 jeux et un game system qui nous permet de jouer à 66 jeux. Hein.
Oui, bien
mais
sûr.
On a des groupes d'expériences de jeu avec du matériel plus ou moins différent, et pour te le vendre, je pense que l'expérience vaut le coup, effectivement. Alors, est-ce qu'il faut que tu l'achètes ? Je sais pas combien tu y jouerais. Serais-tu 2, 3, plus ? Est-ce que tu as un groupe à proximité pour jouer régulièrement aussi ? Ça serait ça le plus la question, plutôt ouais, que le jeu en campagne, tu vois.
Ouais.
Parce que pour moi, je l'assimile pas à un jeu en campagne. Je citais Pandemic plutôt, ou le projet typiquement, qui sont oui, des vrais jeux en campagne avec... si ce n'est de la destruction de matériel, en tout cas de l'évolution de matériel non reconfigurable à l'initial. Donc ça, clairement, pour moi, si t'aimes pas les jeux en campagne pour ça, il y a des jeux, il va pas falloir y aller. Mais tu vois, il y a des jeux comme ça, que ce soit celui-là ou les aventures de Robin des Bois aussi, dont on a parlé, je crois, plutôt dans...
oui,
sur Proxy Jeux, qui ouais, sont ouais, reconfigurables aussi et qui peuvent être une bonne expérience à faire... pour découvrir le jeu en campagne non destructif.
Oui,
mais quand d'accord, je dis destructif, c'est pas forcément qu'on va déchirer des cartes, mais c'est qu'on va pas
sûr,
pouvoir
c'est...
revenir en arrière, quoi.
Oui, je vois tout à fait. Oui.
Et celui-là, je dirais bien que même si tu achètes le jeu d'occasion qui a déjà les stickers et sur les boîtes et que tu vois un sticker sur la boîte, tu vas pas comprendre le matériel qui est en visuel à quoi il sert, tu vois.
Mais
vraiment
d'accord,
aller,
c'est pas...
aller décrypter la règle. Et ce que j'ai pas dit, effectivement, c'est que dans chaque boîte de campagne, chaque mission, c'est une grande carte, type carte de tarot, quoi, un peu ce format-là, où t'as ouais, quand même beaucoup de texte et la règle principale, elle est sur cette carte. Donc même les petites modifications de règles qui sont collées dans la règle principale, ça te dit pas vraiment ce à quoi tu vas t'attendre.
D'accord.
Donc voilà. C'est des petits indices, mais voilà. C'est, tu peux, comme ça, même l'achat de la boîte d'occasion est pas déconnant.
D'accord. Très bien. Ok.
Bon, avec tout ça, je pense que t'as pu deviner un peu mon avis sur le jeu. Hein. C'est évidemment un grand oui. C'est un jeu qu'on a beaucoup attendu à la maison, hein, et on n'est absolument pas déçu de l'expérience et du ressenti autour de la table. Même si on craignait un petit peu cette config à 3, mais non, au contraire, c'est très bien. Et on est très jeu de déduction. Et moi, il fait partie des rares jeux qui me font renouer avec le jeu coopératif, qui est à la base pas trop ma tasse de thé, quoi.
Ah bah tu vois. Le capitaine est tournant ? C'est pas important ou...
Alors c'est dans les règles, en fait, le capitaine, il tourne parmi les joueurs. Hein. On fait okay, une partie, qu'elle soit gagnée ou perdue, le capitaine change.
D'accord, très bien.
Ouais, c'est toujours
très
comme
bien,
ça, en fait. Et ça permet justement de... parfois de faire gagner une partie en mettant tel joueur plus capitaine qu'un autre parce qu'il va avoir plus de sensibilité sur tel ou tel point ou ben voilà, c'est pas systématique, mais comme ça permet aussi en cas de défaite répétée de faire partager un petit peu et de voir qui s'en sortirait le mieux, hein,
d'accord,
avec ce qui lui est donné comme
ouais,
tuile.
Mmh.
Voilà, donc si vous avez l'occasion, au détour d'un salon, d'un festival, d'amis qui l'ont, essayez-le, ça vaut le coup d'être essayé, au moins pour cette mécanique très originale de déduction, de communication limitée. et d'avancer comme ça, de faire 2-3 missions, même si c'est les missions d'initiation. Ouais. Voilà, d'avancer, on fait une partie, c'est 10-15 minutes, on en refait une. Et souvent, voilà, quand ils annoncent 30 minutes sur la boîte, ça me fait rire parce que c'est clairement comme du jeu de pli où tu enchaînes les parties, tu enchaînes, quoi, tu t'arrêtes pas à une partie.
Ouais.
Voilà. Et toi, tu y as pas joué alors du coup tu...
J'y ai pas joué, non, je connais pas. Enfin, j'en ai beaucoup entendu parler, évidemment.
Ah oui.
Et je tenais, je me permets de faire un petit clin d'œil envers Cargo, qui sur le Slack interne nous disait l'autre jour qu'il a une grosse frustration vu qu'il joue toujours avec les mêmes joueurs. Il a jamais réussi à dépasser la mission numéro 9 parce qu'à chaque fois il recommence à la première. Voilà.
C'est vrai que c'est
Cargo,
un peu notre.
Si tu nous écoutes.
C'est un peu notre problématique aussi. On fait beaucoup essayer de jeux effectivement autour de nous et à chaque fois du coup bah tu te remets dans la configuration de découverte du jeu, donc t'avances jamais avec les personnages, les asymétries,
voilà.
Et tout ça, donc ce jeu là effectivement amène ce même souci. Il faut trouver un groupe de joueurs et essayer d'avancer avec ce groupe de joueurs. Pour l'instant, voilà. Je pense pas qu'il soit en numérique, donc il faut physiquement trouver des amis.
Ouais, d'accord. Non bah écoute, très bien. Non bah écoute, je tâcherai d'essayer à l'occasion, si j'ai quelqu'un autour de moi ou un ami ou dans un club de jeu, au moins faire 3-4 des premières parties, voir ce que ça donne, histoire de goûter.
Oh, je ne doute pas que tu puisses y jouer à Cannes, sinon.
J'espère.
Bon, eh ben, je crois qu'on a fait le tour de ces deux jeux qui terminent l'année.
Absolument. Que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. Vous pouvez également nous contacter sur X, anciennement Twitter, Facebook, Instagram, mais également sur notre Discord. Pensez à partager nos émissions sur les réseaux sociaux. Laissez-nous des commentaires, un peu plus que 3 s'il vous plaît, et surtout parlez de nous autour de vous.
Et si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous aider financièrement. Pour ça, vous pouvez passer par PayPal ou par un virement bancaire à l'association. Pour ça, vous pouvez nous demander notre RIB. Le mois prochain, vous retrouverez un nouveau duo dans l'émission des Jeux du Mois. Et la semaine prochaine, vous retrouverez un Le Pour et le Contre avec Cyrus. Et moi, et oui, encore moi. Et on va s'affronter donc sur les ruines de Narak. À très bientôt. Et en attendant, jouez bien.